13h12 minutes. C'est le fun de rencontrer nos collaborateurs.
Ah oui, surtout quand ils sont smart de même.
Des bons gars, des bons gars, des bons gars.
Et les gens étaient surpris sur Twitch. J'étais comment? On dirait que je l'imaginais plus vieux.
Tu vrai?
Ouais.
Ben, je sais pas quel âge qu'il a. Sérieux, je veux pas le vieillir. D'après moi,
mais tu cours après?
30, 35. Non, ben, c'était pas mal ça que tu faisais des dernières secondes, là. Mais tu peux continuer. Donc, Nicolas Gagnon qui était avec nous autres. Je vous rappelle la défaite du Canadien, puis une défaite pas à peu près, les amis. 6-1. Le Canadien qui a perdu, qui était à Saint-Louis hier. L'équipe des Blues de Saint-Louis, c'est l'équipe de l'heure. Là, ils perdent de plus. Suzuki, qui était le seul marqueur du Canadien de Montréal. Samuel Montembeau, qui a été capable de réaliser quelques arrêts, mais en même temps, les 3-4 premiers buts, c'était pas vraiment de sa faute. Mais bon, il a été remplacé et après 5 buts. Et puis, malheureusement, ça n'a pas été suffisant pour le Canadien qui n'a pas réussi à conserver le rythme. Donc, prochain match, c'est demain, 19h à Philadelphie. Est-ce que tu as dit son âge, finalement?
Oui, j'avais tellement eu l'air un peu bizarre, là.
Oui, ben, je suis d'accord.
J'ai couru jusque dans le corridor. Nick!
T'as quel âge?
T'as quel âge? J'avais l'air de courir après pour vrai.
Ça avait l'air d'être important pour toi.
C'est-tu quoi? Non, mais les auditeurs voulaient savoir. 31 ans. 31. Il y a mon âge.
Ben oui, c'est ça. Mm-hmm. Exact. Super. Il a de l'air riche.
Il a l'air plus intelligent que moi, là. 31, j'ai des croûtes à manger.
C'est vrai? Ben, t'as 365 jours pour t'améliorer.
Exact.
Louis Gauthier, chroniqueur international. Salut!
Hey, bonjour Québec.
Toujours un plaisir de te jaser. T'es-tu au Québec ou t'es aux États-Unis, toi, là?
Ben non, je suis à Detroit.
T'es à Detroit!
Il y a une chanson qui a été faite par Kiss.
Detroit.
Ça s'est-tu... est-ce que ça s'est rebâti, Detroit?
Ben oui, écoute, je te dirais pas la vieille partie de Detroit qui est plus au nord-ouest, vers Port-Huron, dans le fond, là. C'est encore, je te dirais... on est en train de retaper, mais tu as quand même des anciennes usines qui étaient là. Donc, on s'en va vers, plus vers l'ouest, plus vers le sud, plus vers l'Ohio. Mais vois-tu, le nouveau stade de football, le nouveau stade de baseball, l'aréna, tout a été refait dans les anciens quartiers. Donc, ça leur a donné une certaine vie dans ce secteur-là. Mais plus vers l'ouest, Ann Arbor et tout ça, je te dirais que ça commence à se développer, à prendre un peu du poil de la bête, ouais, comme on dirait dans la fameuse ville de l'automobile.
Parce qu'il y avait des quartiers fantômes, là. Je me souviens de... Comment il s'appelait, c'était le maire?
Ben, River Rouge.
Ouais, l'ancien maire d'Huntington.
Comment il s'appelle? Oh mon Dieu!
L'ancien maire d'Huntington, lui, il avait été faire un tour à Détroit, puis il avait filmé là, des endroits où il y avait des maisons qui étaient abandonnées. C'était des quartiers, des immenses quartiers qui avaient été abandonnés par les résidents parce qu'il n'y avait plus de job. Les
Stéphane
gens...
Gendron.
Stéphane Gendron. Puis les gens avaient laissé leurs affaires là.
Hey,
puis...
Tu me ramènes à quelque chose que j'ai complètement oublié.
Ouais, ça m'a fait capoter parce que
Lorsque tu sors du pont Ambassadeur, à gauche, là, le quartier qui est là, c'est River Rouge. C'est une place là où on allait livrer à l'époque, puis il fallait sortir de là avant 3 heures l'après-midi. Parce qu'il y a des gens qui commençaient leur chiffre de nuit, puis c'était pas les gens un peu enviables que tu fréquentes régulièrement dans ta vie de tous les jours.
Puis là, c'est-tu sécuritaire pour toi? Parce que je sais que tu dors là-bas, là, mais c'est-tu sécuritaire dans les rues pour un petit blanc-bec comme toi?
Ah ben moi, la peur, je ne connais pas. Je dois dire que j'ai été habitué à ça très, très jeune dans ma vie. Mais quand tu y penses pas, il n'y a pas de problème. Ben, s'il fallait que j'aie peur, Yannick, s'il fallait que j'aie peur avec toutes les places que j'ai vues dans le monde et tout ce que j'ai vu comme atrocité dans le monde, on ne serait peut-être pas en train de se parler. Je serais peut-être dans un gros édifice sur Destimoville à Beauport.
Ah oui, Robert Gifford.
Yes.
Bon. Hey, on parle des relations internationales temps de campagne électorale fédérale. Mm-hmm. Qui s'occupe de négocier avec le gros orange là, pour ce qui est du gouvernement canadien? Est-ce que c'est encore Chrystia Freeland?
La question, Yannick et Pascal, je me la suis posée parce qu'on parle beaucoup de Donald Trump, l'impact que Donald Trump a sur le résultat de l'élection canadienne, sur on va voter libéral à cause de Donald Trump. On entend parler de tout ça, mais quelle est la position du Canada dans le cadre des relations internationales? C'est la question que je me suis posée, puis j'ai reculé jusqu'en 2012 pour vous donner une idée où on s'en va et que notre avenir n'est peu reluisant. Pourquoi? Parce qu'en 2012, le gouvernement de Stephen Harper s'est retiré du Conseil de sécurité de l'ONU, et à ce moment-là, ben c'est la Norvège et la Suède qui ont pris la place, puis on se demande pourquoi. Et en 2014, Justin Trudeau, avant l'élection de 2015, a réuni quelques conseillers politiques de politique étrangère, dont un invité que j'ai dans mon podcast qui sera disponible cet après-midi, Jocelyn Coulon. Il a réuni tous ces experts-là pour nous dire, pour demander à Justin Trudeau ou pour offrir à Justin Trudeau comment devraient être les relations internationales, comment redorer l'image du Canada qui a été construit par Lester B. Pearson, qui a créé les casques bleus canadiens, qui a mis le Canada sur la map internationale puis qu'on a perdu. Donc, il y a eu un paquet de conseils. Et les conseils qui s'étaient donnés, c'est d'aller chercher des gens d'expérience, non des diplomates qui sont des poussés de crayon, qui gèrent des budgets et tout ça. Aller chercher des militaires retraités, aller chercher des stratégiques militaires, aller chercher un paquet de gens qui ont eu l'expérience de terrain. L'élection de 2015 arrive et le fameux rapport s'est retrouvé aux oubliettes et ça n'a jamais apporté. La preuve, on a eu la guerre en Afghanistan qui, moi, j'ai toujours appelé, a été une guerre de partenariat public-privé. La preuve, on a mis sur place des drones à l'époque qu'on pouvait entendre parler. On pouvait entendre les drones dans le ciel de Kandahar comme si c'était un camion qui descendait une côte, ses freins moteurs. Alors, puis ça, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissements privés, de gestion privée, parce que les gens avaient perdu leur rôle de partenariat public avec le gouvernement pour gérer la diplomatie internationale. Donc, on a décidé de s'incruster dans le domaine militaire et ça s'est embourbé, ça l'a créé encore, ça a creusé le trou encore plus gros dans notre défense nationale, dans nos relations internationales et ça a fait ce que ça a donné pendant les années du gouvernement libéral des 10 dernières années, c'est qu'on a perdu notre lustre à l'international. Donc, qui devra prendre la place? On va en discuter plus tard cet après-midi dans le podcast, mais ce sont tous des gens, des retraités de l'armée qu'on doit mettre. C'est en fait ce qu'on avait présenté au gouvernement Trudeau en 2014-2015 avant l'élection qui devrait être fait aujourd'hui. Puis ça ne sera pas du jour au lendemain. On peut en avoir encore pour 5 ans. 5 ans avant de retrouver, si on applique présentement ce que je vous dis là, si on l'applique présentement, ça va prendre 5 ans pour le mettre en force puis que ça donne des résultats. Le problème, c'est qui en parle pendant la campagne électorale? C'est sûr qu'elle est jeune, mais personne n'en parle. Personne n'en parle, puis c'est un sujet, c'est peut-être le plus grand sujet auquel Donald Trump nous tape sa tête à chaque fois, notre sécurité nationale. On parle de la frontière sud. Combien de fois je vous le dis que ce n'est pas la frontière sud qui dérange, c'est ce qui se passe au nord. OK? Il y a des bateaux russes, il y a des bateaux soviétiques, des bateaux chinois qui passent là, puis qui font des vagues à nos chaloupes qui prennent l'eau. Ce n'est pas la première fois que je dis que c'est 30 milliards de dollars qui doivent être investis dans notre armée. Il faut, tu sais, les jeunes là, qui cherchent la job, pourquoi qu'ils ne vont pas donner leur nom dans l'armée, faire un cours d'officier? Ils peuvent faire 5 ans à l'université, dans les cégeps, les études payées.
Mais ça, c'est connu, ça fait longtemps. C'est juste que...
Ça fait longtemps, mais personne n'en parle, Pascal.
Ben non,
personne
en fait,
en parle.
Ils sont toujours dans les écoles secondaires avec leur stand, puis en parlent beaucoup et tout ça. C'est juste qu'il y a eu, de moi, ce que j'ai pu constater dans ma génération, une grande recrudescence par rapport à l'intérêt des Forces armées canadiennes. Il y a eu un moment où il y a comme une génération qui était plus pro-paix, un genre de retour du peace and love, on veut, l'armée est mal vue et tout ça, et on commence à voir à quel point peut-être on n'a pas assez investi ou fait bien paraître l'armée dans certaines générations pour se dire que c'est quand même un métier de don de soi, de valorisation et autres. Puis une de mes très, très bonnes amies est dans l'armée, puis je veux dire, sa vie côté conditions, elle est exemplaire, mais au quotidien, c'est un dévouement.
Par contre, est-ce que le Canada doit continuer à investir à l'étranger sans qu'on connaisse la ventilation des coûts qui sont investis ou investir dans notre armée? Parce que c'est ce qu'on a de besoin. On a de besoin de notre conseil stratégique à l'international. C'est l'histoire du Canada.
Il faut arrêter de s'appuyer sur les autres, ça, c'est sûr.
A toujours été d'aller conseiller stratégiquement les autres pays. C'est ce qui est arrivé en Bosnie, c'est ce qui devait arriver en Afghanistan, c'est ce qui est arrivé à la guerre Desert Storm en Irak. C'est ce qui va arriver dans le futur, parce qu'il va en avoir d'autres conflits à l'international et le Canada doit reprendre cette place-là qui est laissée pratiquement vacante sur la scène internationale.
On va se le souhaiter.
Donc,
mais
on doit avoir les personnes en place pour le faire.
Entièrement d'accord. Pour ce qui est de l'enrôlement dans l'armée, il y avait un article de la presse très intéressant qui rapportait des statistiques. Du 1er janvier au 27 février 2025, là, il y a eu une hausse de 20 % par rapport à 2024. Et si on prend les chiffres de 2023, c'est une hausse de 60 %. Donc, il y a de plus en plus de gens qui décident, peut-être en période d'incertitude économique là, pour ce qui est de l'emploi, d'aller dans l'armée où là, si tu fais un bon travail, tu as un emploi assuré jusqu'à la fin de tes jours.
Mais le gouvernement fédéral doit quand même faire son bout de chemin.
Entièrement d'accord.
En croyant au produit, le produit étant les Forces armées canadiennes, et les Forces armées canadiennes ainsi que tous les services de renseignement doivent avoir les sommes nécessaires. La question se pose encore, ce que je dis au début. Qui en parle durant la présente campagne électorale, alors que c'est un sujet lorsqu'on doit se démarquer de notre voisin qui est au sud? Tu posais la question du gros orange tantôt. Bien, c'est de cette façon-là qu'on va démontrer qu'on est capable d'être autonome. On est capable d'être autonome, de compter sur nos ressources naturelles, toutes nos ressources que nous avons à notre disposition au niveau de notre société. On doit les exploiter, Yannick et Pascal.
Et tu sais, pour ces fameux tarifs-là, ils devaient être capables de justifier l'augmentation des tarifs par une urgence d'État. Puis là, il a inventé de quoi, comme quoi il y avait du fentanyl aux États-Unis qui provenait du Canada, puis il y avait énormément d'immigrants illégaux qui provenaient du Canada. Mais écoute, il y a des articles là, qui ont été écrits à ce sujet-là, des recherches qui ont été faites. 1 % du fentanyl qui est retrouvé aux États-Unis se retrouve aux États-Unis. Ça, c'est de la grosse bullshit. Pour ce qui est des immigrants illégaux, bon, on a eu notre passe, effectivement. Il y a des gens qui s'en venaient ici au Canada puis se sont dit « Hey, c'est pire que chez nous, fait qu'on va aller aux États-Unis. » Ils ont tenté de traverser l'autre bord, puis c'était peut-être effectivement une passoire. Mais la vraie menace, t'as raison, c'est au nord, puis c'est à l'est, puis à l'ouest, là, ce qui rentre par les côtés. Mmh. Parce que les États-Unis défendent bien leurs frontières, mais de notre côté, on a énormément de difficultés. Puis j'ai l'impression que ce que Donald Trump a fait, ça a eu un impact qu'on s'est concentré sur la frontière entre le Canada et les États-Unis. Puis on a comme oublié là, tu sais, ce qui se passe dans le secteur de Vancouver. Là, tu sais, on met ça un peu de côté parce qu'on se dit, hey, faut renforcer la frontière entre le Canada et les États-Unis. On n'est pas des ennemis. Là.
C'est vrai qu'on travaille
plus. Non, on
n'est
pas des ennemis. Puis moi, je parle à des Américains ici à tous les jours. Les Américains, l'histoire des tarifs, là, je suis dans un État, là, ça fait 2 semaines que je suis dans le coin ici. Le Michigan, c'est un État voisin de l'Ontario. Et je vous en ai parlé régulièrement, le nombre de transports qui se fait concernant les pièces automobiles, le montage qui commence au Canada ou qui commence aux États-Unis, qui va se poursuivre au Canada, qui revient aux États-Unis. Une remorque de 53 pieds peut traverser la frontière 6 fois par jour entre Windsor et Détroit. Il en passe 22 par jour, des remorques comme ça. Comptez le nombre de voyages, comptez le nombre de frais de tarifs qu'il pourrait avoir, 25 % à chaque fois. Les Américains ne sont pas fous. Tu sais, ta Toyota, là, que tu payes 22 000 $ là, elle va te coûter combien en bout de ligne? 45, 52 000 à cause des tarifs? Ça ne tient pas la route. Moi, je vous le dis, là, il va avoir le 2 avril, ça s'en vient vite. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Mais le 2 avril... Pourquoi qu'il a choisi cette date-là? Parce qu'il ne voulait pas que ça passe pour un April Fool's Day le 1er avril. D'après moi, on a d'autres surprises, puis Donald Trump, le connaissant, il se couche ce soir avec une idée, puis le lendemain matin, en se réveillant, ça a changé de bord.
On n'a pas fini d'en parler, mon ami. Je te souhaite un bon voyage. Tu reviens au Canada quand, là?
Si, je suis chanceux ce soir, là, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Mm.
La relation que vous avez avec les douaniers, là, toi, tu passes régulièrement, là, Canada, États-Unis, États-Unis, Canada. Est-ce qu'elle s'est dégradée depuis que le gros orange est en place ou ça reste la même affaire, peu importe le président qui arrive dans la place?
Vous devez comprendre que ça ne change rien, OK? Et Donald Trump, pour les Américains, c'est un autre politicien. Il y en a qui ont voté pour lui, qui sont déçus de sa tournure, de son plan économique, parce qu'ils ne sont pas sûrs que ça va donner des résultats. Tu sais, il y en a, puis les douaniers, c'est la même chose. Une chose que je dois dire concernant le transport frontalier, par contre, j'invite les gens à aller d'aller chercher sur les app phones, là, les applications, parce que ça va prendre ça. Je vous dirais que lundi, ça a commencé, là. Il faut aller installer ceux qui viennent aux États-Unis pour plus de 30 jours, aller installer l'application qui est des services frontaliers américains pour le fameux I-94. Donc, le fameux I-94, vous allez vous enregistrer, payer vos droits dessus, puis lorsque vous passez aux États-Unis, bien, eux autres, ils le voient. Vous créez un compte, là, mais ça va être important de le faire, là, parce qu'il y a des vacances. Je sais qu'il y en a qui n'iront pas cet été, mais il y en a qui vont quand même y aller. Puis si vous passez plus d'un mois, c'est important de le faire, là. Là, on voit qu'ils ont commencé à l'appliquer, là, depuis cette semaine.
T'en connais beaucoup sur le monde du camionnage, Louis Gauthier. Est-ce que tu as vu le reportage de JE concernant les chauffeurs Inc.?
Bien, je ne l'ai pas vu, je n'ai entendu parler, c'était enregistré, la madame à la maison me l'a enregistré.
Y a-t-il le même problème aux États-Unis?
Bien, écoute, il y a un problème aux États-Unis parce que le transport par camion, c'est un cours qui est donné un peu partout dans chaque État, comme dans chaque province au Canada. Mais oui, c'est un problème, principalement en Ontario. On parlait de l'Ontario puis du Michigan. On voit beaucoup de ces gens-là. Sauf qu'il va falloir le faire. Il y a seulement le Manitoba qui a commencé à s'ajouter à la Colombie-Britannique et au Québec concernant les cours, concernant des cours de formation. C'est beaucoup les compagnies de transport qui donnent ces cours-là de 3-4 mois. Je parle du Manitoba parce qu'il y a des grosses compagnies de transport qui sont au Manitoba, comme Arnold Transport, comme Bison Transport. Eux, ils donnent beaucoup de formation, puis là, ils sont en train de le faire. Puis, étrangement, Bison Transport, c'est une compagnie qui embauchait beaucoup de travailleurs étrangers. Et ce sont ces travailleurs étrangers-là qui ont décidé de se partir des écoles ailleurs au Canada en se pensant des champions de la route. Puis ça donne ce que ça donne.
Mais tu sais,
ça vient par des écoles.
Tu sais, moi, Louis, tant que les cours sont faits puis que la personne apprend à avancer, reculer, parquer son camion, être capable de mettre sa remorque directement à gate où elle doit le mettre et comprendre dans quel sens l'autoroute il faut que tu ailles, puis commencer les changements de voie, puis les angles morts et tout ça. Moi, c'est correct, là. Mais là, moi, ce que j'ai appris dans le reportage de JE, c'est qu'il y en a qui, après une journée, sont capables d'avoir leur permis de camion lourd.
Là, c'est problématique.
Ça n'a pas,
ben oui,
problématique.
Mais pas de bon sens. C'est sûr. Mais c'est, je le crie sur tous les toits depuis à peu près 10 ans. Je publierai mon mémoire de maîtrise de 2012 sur l'employabilité dans le transport. Là. On est 13 ans plus tard. Vous me diriez que j'ai été un visionnaire. Parce que ça relevait. La pénurie de chauffeurs relevait de l'immigration, mais il fallait s'assurer que l'immigration rencontre les règles que nous devons appliquer, dont le fameux permis de conduire, qu'ils peuvent avoir tout de suite en arrivant, puis qui ont 6 mois pour déprouver, pour montrer leur reconnaissance
leur savoir-faire.
Des
acquis. Ben oui.
Donc, en 6 mois, ils s'en font du dommage. Puis tu parles de ceux qui ont un jour, ils n'ont même pas besoin de reculer parce que tu les vois tous sur les transports de containers. Tu sais, les fameux containers que tu vois dans les ports à Montréal, là,
ouais. Ben
eux, ils n'ont pas besoin de reculer avec ça. Ils spinent sur le trailer dans la cour, ils s'en vont en ligne droite, ils rentrent dans le port de Montréal, ils sont en ligne droite. Il y a une grosse grue qui prend le container, qui l'enlève, qui prend un autre container, qui le met sur le frame, puis il part par l'avant, puis il retourne. Il n'y a jamais besoin de reculer.
Quand tu as des détours, tu sais, des fois, il arrive des affaires qui ne sont pas prévues, des sorties de route, ça fait en sorte qu'on ferme l'autoroute, puis ils te font un pied dans la route. Savoir tes distances, les hauteurs et tout ça. Tu sais, quand je jase avec les gars de Truck Stop Québec, il y a des auditeurs qui me mentionnent que des fois, ils sont obligés de sortir de leur camion pour aider un confrère, camionneur Inc., là, ils ont souvent des chapeaux sur la tête, à ce qu'on me dit.
Ben oui.
Puis là, ben, le gars, il dit, je suis pas capable de reculer, tu peux-tu m'aider? Fait que là, le camionneur descend de son truck, s'en va reculer le camionneur Inc. à la bonne place pour être sûr que lui puisse être déchargé à un moment donné aussi. Là.
Je vais te compter pire que ça, il y a 3 semaines, à la sortie 796 en direction Est sur la 401, donc c'est à Cornwall. Il y a un truck stop qui est là, qui est un Petropass, parce qu'on n'est pas loin de l'entrepôt de Walmart et tout ça. Et les gens, les camionneurs viennent fiouler leur camion dans les baies d'essence. Puis lorsqu'ils ressortent, au lieu d'aller se parquer, ils se stationnent tous dans la sortie pour aller se prendre un café au Tim Hortons qui est juste à côté. Donc, c'est à peu près l'espace d'un camion pour passer parce qu'ils sont tous parqués là.
Ouais, mais si c'est régulier, la police, intervient pas? Ou...
Ben non, c'est un terrain privé. Mais je vous parle de 3 semaines parce qu'un des champions qui a fait ça, il reprend l'autoroute parce que tu as une bretelle à prendre puis c'est sur un bout de droite. Ben, le camion dans la bretelle a pogné le clou, a jamais sorti pendant 6 heures de temps dans un bout de droite.
Ouais, puis il y a une nouvelle aujourd'hui importante aussi, tu sais, qui fait écho de tout ce qu'on jase régulièrement, surtout Yannick. Là, en plus, tu as parlé dernièrement là, avec les gars de Truck Stop Québec dans Marceau le Soir, puis le reporter de GIE, vous pouvez reprendre ça sur blvd.fm, là, dans la section Marceau le Soir. Mais la nouvelle d'aujourd'hui, je vous lis le titre. Parents éjectés devant leurs enfants, le jeune camionneur ontarien condamné à un an de prison. On parle d'un camionneur qui, lui, voulait purger une peine à la maison. Je vous explique la scène, il est entré en collision, une importante collision avec une mini-fourgonnette. Là-dedans, il y avait une famille. La mère a été dans le coma pendant 2 mois et finalement, ben, il va être 1 an derrière les barreaux, mais les charges qui pesaient contre lui faisaient en sorte que lui, il voulait juste purger sa peine à la maison. Ça s'est passé au palais de justice de Saint-Hyacinthe. C'est 1 an de détention ferme. Ça veut dire qu'on commence à comprendre qu'il y a des drames qui arrivent qui ne devraient pas être sur nos routes pour des raisons peut-être...
Oui, c'est de la négligence criminelle, mais l'éducation mais la peine, selon moi, n'est pas assez sévère, mais ça commence à sortir.
Il y a 22 ans. Le conducteur avait 22 ans. 5 ben accusations. Oui. Délit de fuite aussi qui a causé des lésions. Le gars est parti.
Si je te disais que ça prend 25 ans puis 2 ans minimum, 3 ans minimum d'expérience pour aller aux États-Unis, c'est les compagnies d'assurance qui exigent ça. Que tu aies 25 ans puis au moins 3 ans d'expérience sur la route avant d'aller aux États-Unis, avant qu'une compagnie au Québec envoie un chauffeur aux États-Unis.
Bien, je te crois, en plus, avec comment est-ce que tu peux te faire poursuivre aux États-Unis, mais tu sais, il y a tous les drames humains en arrêt de ça. Le gars de 22 ans qui arrive, qui veut une job, qu'on comprend, il veut survivre, mais il omettre de faire son arrêt obligatoire. Il y a un choix qui est en arrière de tout ça. Rentre dans Dodge Caravan, il y a une petite famille à l'intérieur, il y a 3 enfants, les 2 parents, pouf, éjectés, un dans le fossé, l'autre en milieu de route.
Mais à sa défense, il est daltonien, il connaît pas la couleur sur les
Je vais pas là, je vais pas là, mais tu sais.
Louis Gauthier, c'est toujours un plaisir.
On parlait de Transport Québec. Oui. Je voudrais saluer mon ami Benoît Thérien. C'est son anniversaire aujourd'hui. Ah, le mois de mars étant le mois d'anniversaire des grandes personnalités de ce monde.
Le grand orange de Truck Stop Québec, c'était sa fête hier. Fait que si vous souhaitez bonne fête aujourd'hui, c'est une journée en retard.
Ben non, mais okay, c'est vrai, on est le 26 aujourd'hui.
Oui, exact.
Ben oui, excuse-moi, je me trompe d'un date.
Salut Louis!
C'est mon âge.
Bye!
Hey, bonne journée tout le monde.
Merci, à la semaine prochaine. Louis Gauthier, chroniqueur international à qui on aime bien jaser. Hey, vous le savez, à Boulevard, on a des classiques. Bon, on parlait de la classique Boulevard au Centre de glace Intact Assurance qu'on a faite la semaine dernière.
T'as suivi la vidéo qui est sortie sur nos réseaux sociaux?
Elle est magnifique!
Hey, le fun qu'on a eu!
Salutations à Laurence, puis même Audrey et Elodie qui ont travaillé extrêmement fort pour les réseaux sociaux. C'est super beau ce que vous avez fait. Puis je pense que les gars qui ont joué contre nous autres, des gars de la Beauce, les Beaucerons, sont très contents d'avoir ce souvenir-là. Puis il va y avoir possiblement un match revanche.
Ah, je suis tellement contente, là.
Ils se sont arrêtés sur une date, là. Il reste à kidnapper le maire de Québec comme eux ont kidnappé le maire de Saint-Isidore. J'essaie de convaincre Denis de l'inviter en onde, mais là, Denis veut pas participer à ça parce que ça l'implique un sac de jute puis du tape gris.
Oui, je comprends.
Puis là, Denis
puis aussi
dit,
un mensonge.
Oui, mensonge.
Une séquestration.
Là, Denis dit... On risque peut-être la prison avec ce genre de kidnapping-là.
Puis toi, tu t'es dit quoi? On assumera les conséquences après les faits?
Quand les policiers vont arriver, je me suis dit, est-ce que j'étais pas au courant que ça se faisait pas? Avec ma face, ça passe souvent. Donc, on a des classiques. Puis aujourd'hui, c'est avec Dernier Pneus et Mécanique et Nokian Tires qu'on vous fait part de nos classiques. Le Rock'n'Ball, ça a été officiellement lancé lundi avec la gang de Rage Against le matin. Linkin Park, on vous envoie là le 1er août au TD Garden. Ça, c'est la partie rock. Il y a 2 billets pour aller voir le nouveau show de Linkin Park. Et la partie ball, ça va être 2 billets pour les Red Sox au célèbre Fenway Park le 2 août prochain contre les Astros de Houston. Ça inclut le vol, l'hébergement. On vous donne 500$ cash en argent de poche. Donc, on fait les choses en grand avec vous autres. Pour participer, c'est assez simple. Chaque fois que vous entendez une toune de Linkin Park sur nos ondes, vous allez l'inscrire au blvd.fm. Et il y a un finaliste qui sera nommé chaque jour dans Gravel dans le retour parmi toutes les inscriptions reçues jusqu'au 17 avril le prochain. C'est 3 participations par jour maximum qui sont permises. Donc, plus tu écoutes le boulevard, plus tu maximises tes chances de gagner. Et aussi, en collaboration avec Nokia Tires. Chaque mercredi dans Rage Against le matin, on va gâter une personne au hasard parmi toutes les inscriptions pour rouler avec des pneus neufs cet été. Ça vaut jusqu'à 1 000$. Et tout ça, c'est possible grâce à Nokian Tires et Dernier Pneus et Mécanique. Donc, merci beaucoup d'avoir embarqué dans cette grande aventure. 13h36, on fait une courte pause. Vous avez des choses à nous dire. C'est le 88 971 1021.